L'Europe en direct sur Graffiti, c'est avec Hélène de Europe Direct Vendée. Bonjour Hélène.
Bonjour Bastien.
Chaque semaine, un petit point sur l'actualité européenne et ce qui nous touche en ce moment, cette actualité, c'est cette journée internationale des droits des femmes. C'était le 8 mars, mais nous on continue puisqu'en fait la journée de la femme, bah, pour nous c'est toute l'année.
Hein, voilà,
donc on va pas bouder notre plaisir, surtout pour en apprendre un peu plus sur l'Union européenne. Et qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui?
Un petit quiz, ça te dit qu'on s'amuse?
Ah bah ça faisait longtemps.
Vous
tiens.
Aussi derrière votre radio ou votre podcast, eh bien, c'est parti. Donc, le 8 mars, en effet, journée internationale des droits des femmes. Et donc, première question.
Je t'écoute.
Alors, actuellement, sais-tu combien il y a de femmes chefs d'État ou chefs de gouvernement dans l'Union européenne?
Alors, sur 27, je dirais quand même malheureusement pas énormément. Pour y en avoir plus, je dirais 5.
Eh ben, on n'est pas loin. Il y en a 6. En fait, il y a 3 femmes chefs d'État pour la Slovénie, la Grèce et Malte. Et pour les chefs de gouvernement, ce qu'on appelle les premières ministres, il y en a 3. Une au Danemark, une en Lettonie et une en Italie. Donc, il faut savoir quand même que 6 pays de l'Union européenne n'ont jamais eu de femmes à leur tête. Je te les cite. Il y a la Bulgarie, Chypre, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République tchèque qui n'ont jamais eu de femme première ministre ou chef du gouvernement ou de l'État.
C'est jamais, ça peut peut-être changer un jour quand même.
Voilà. Deuxième question, toujours dans le même thème maintenant. Sais-tu quelle est la femme européenne qui est restée le plus longtemps justement à la tête d'un État de l'Union européenne?
On en a parlé beaucoup quand même, je dirais qu'on va plus se tourner vers l'Allemagne, Angela Merkel.
Ouais, tout à fait, bravo. Angela Merkel qui était parfois surnommée Angela Europa ou Reine de l'Europe parce qu'elle a dirigé l'Allemagne pendant 15 ans, de 2005 à 2021. C'était la chancelière et elle incarnait l'Europe sur la scène internationale. Elle a été la deuxième femme à disposer d'un vrai poids politique majeur dans les discussions au sein du Conseil de l'Europe. Alors pourquoi je dis la deuxième? Parce que la première, eh bien, c'était notre dame de fer, hein, la Britannique Margaret Thatcher, qui a été, elle, 11 ans première ministre du Royaume-Uni de 1979 à 90. Alors, troisième question maintenant.
T'écoute.
Du côté des salaires.
Ah. Alors. Parlant des choses qui fâchent.
Ouais. Donc, d'après toi, quelle est la différence de salaire entre les femmes et les hommes en moyenne au sein de l'Union européenne pour un travail identique?
Bah, dans un monde idéal, bah, ce serait zéro. Hein, mais j'imagine que c'est pas le cas. Alors, je dirais quand même 10%.
Ouais. En moyenne, c'est 12% plus faible pour les femmes que pour les hommes. Et seulement 68,5% des Européennes ont l'opportunité de travailler, alors que pour les hommes, c'est 79,6%. Donc, plus d'accès à l'emploi pour les hommes que pour les femmes en Europe. Et en France, en 2023, eh bien, les femmes représentaient par contre la moitié de la population française, 52%. Alors, pourquoi je dis 2023? Tu sais, on est sur les chiffres de l'INSEE. Là, les chiffres actuels, c'est 2023. Donc, 52% de la population française était des femmes et par contre elles représentaient 49% de la population active. Donc selon une étude qui est sortie le 25 février dernier par contre là, l'observatoire Schema nous dit qu'il y a seulement 10% des grands patrons des 40 plus grandes sociétés françaises cotées à la Bourse de Paris qui sont des femmes. Cette enquête de l'observatoire Schema révèle aussi qu'en 2024, il y a 28% des postes au sein des instances dirigeantes des entreprises, donc on n'est plus là maintenant à la tête, mais au comité exécutif et autres. Mmh. Donc 28% des postes au sein des instances dirigeantes des entreprises du CAC 40 étaient occupés par des femmes, ce qui représente 2 points de plus par rapport à 2023. Donc les femmes restent peu nombreuses à prendre les rênes de ces gros groupes, puisque seulement 4 d'entre elles sont parvenues à se hisser tout en haut de la pyramide, et ça concerne l'entreprise Bureau Veritas, Engie, Orange et Veolia. Donc concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, il faut savoir que c'est un droit fondamental et une valeur fondatrice qui est ancrée dans le droit de l'Union européenne depuis le traité de Rome en 1957, quand même. Donc, pour lutter contre ce déséquilibre qu'on vient de noter, fin 2024 est entrée en vigueur la directive sur l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Donc, cette directive, elle a pour but de parvenir à une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées dans tous les États de l'Union européenne. Donc, cette directive, Elle fixe comme objectif que 40% du sexe sous-représenté parmi les administrateurs non exécutifs et 33% parmi l'ensemble des administrateurs. Donc cette loi, elle est applicable dans tous les pays de l'Union européenne depuis le 28 décembre 2024 et les entreprises doivent donc atteindre ces objectifs de 40% et 33% au plus tard le 30 juin 2026.
On suivra ça de près.
Alors maintenant, est-ce que tu sais quel est le nom de la femme européenne qui s'est battue justement pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement sur l'égalité des rémunérations?
Allez, je vais partir pour crier cocorico, peut-être Simone Veil?
Non.
Ah ouais.
C'était une Belge, Eliane Vogel-Polski, qui est née en 1926, décédée en 2015. Et donc, elle n'a été ni eurodéputée, ni commissaire européenne, Eliane Vogel-Polski. Mais par contre, elle a mené plusieurs combats en faveur des droits sociaux en Europe.
D'accord.
Donc, elle est née à Bruxelles de père russe. Elle a dû se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper aux rafles des Juifs. Donc, en effet, un peu comme Simone Veil. Et sa famille a vécu dans la précarité. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est engagée après dans une carrière d'avocate. Et à ce titre-là, Eliane Vogel-Polski s'est spécialisée en droit du travail et en droit social. Féministe, elle a réalisé plusieurs enquêtes sur les conditions des travailleurs et travailleuses, notamment pour la Commission européenne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est considérée comme une véritable mère de l'Europe sociale et elle incarne les combats pour l'émancipation féminine, l'égalité et la parité entre les hommes et les femmes après la Seconde Guerre mondiale. Donc pour finir, on va clore cette chronique avec trois autres femmes qui ont compté dans l'histoire de la construction européenne. Comme ça, est-ce qu'il y a des noms qui te viennent à l'esprit?
Bah là, forcément, je pense à Simone Veil.
Oui, voilà. Alors en effet,
là, Simone Veil.
Donc en effet, Simone Veil a été la première femme à occuper le poste de présidente du Parlement européen. C'était de 79 à 82. Et donc le Parlement, pour info, il n'a été présidé qu'à trois reprises par des femmes. Donc Simone Veil, ça a été la première de 1979 à 1982. Après, ça a été Nicole Fontaine de 1999 à 2002 et aujourd'hui on a la Maltaise Roberta Metsola depuis 2022. Donc au total, depuis que le Parlement européen existe, ça fait 3 présidentes sur 14 qui ont occupé ce poste. Et là aussi, au niveau des femmes, actuellement à la tête de la Commission européenne, on a Ursula von der Leyen, l'Allemande, depuis 2019. Donc bien, pour Simone Veil, on va aussi parler d'une dame avant Simone Veil qui s'appelle Louise Weiss. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Absolument pas.
Alors, Louise Weiss, elle, c'est vraiment une des mères fondatrices de la construction européenne. Elle est née en 1893, elle est décédée en 1983 et elle s'est totalement investie dans le combat pour le droit de vote des femmes. Alors ça, c'est important parce qu'elle était engagée en tant qu'infirmière pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est devenue ensuite journaliste, puis députée européenne de 79 à 83. Écoute bien, à l'âge de 86 ans.
Ah quand même.
Ouais.
Ah oui.
Et donc, en fait, elle était la doyenne du Parlement européen quand elle a été élue. Et c'est la règle que c'est toujours la doyenne qui investit le président ou la présidente du Parlement européen.
D'accord.
Et c'était justement l'année où Simone Veil a été élue.
Donc tout un symbole.
Ouais, tout un symbole. Donc c'était pas mal. Hein.
Donc Simone Veil d'un côté, Louise Weiss de l'autre. Et la troisième, alors, c'est qui est-ce?
Alors la troisième, c'est Sofia Corradi. Qui est Sofia Corradi?
Qui est-elle, oui.
Eh bien, en fin de compte, on la connaît tous indirectement. Parce que Sofia Corradi, c'est elle qui est à l'origine du programme Erasmus+.
D'accord.
Donc, ce programme qui est le plus populaire dans l'Union européenne, tu sais, qui permet d'aller faire de la formation tout au long de sa vie dans un autre pays de l'Union européenne pour enrichir ses compétences. Parce que, justement, elle, quand elle était jeune, elle avait été faire une partie de ses études aux États-Unis d'Amérique. Mmh. Et quand elle est revenue en Italie, Sofia Corradi, donc cette Italienne qui faisait des études de droit, elle a dit, mon master, il n'est pas reconnu ici en Europe, alors que j'ai appris plein de choses en allant dans un autre pays. Donc ce serait bien qu'on puisse donner cette juste reconnaissance des matières ou des diplômes qu'on va obtenir en dehors de son pays d'origine pour pouvoir avoir un poids ici. Donc pendant 20 ans, elle s'est battue pour donner cette possibilité de reconnaissance de la formation. Et donc en 1958... Après cette expérience de retour des États-Unis, eh bien, elle a lutté sans cesse pour faire passer cette idée-là. Et donc, c'est en 1987, sous la présidence de Jacques Delors, que la Commission européenne a donc adopté définitivement et voté un budget pour financer ce programme Erasmus+.
Merci voilà. Donc à Sofia Corradi pour toutes ces expériences de notre jeunesse qui nous emmènent à l'étranger et qui nous font revenir avec des diplômes validés en Europe et donc dans les pays, dans nos pays d'origine. Ça, c'est quand même le petit plus. Merci beaucoup. On parle souvent des pères fondateurs de l'Europe, mais là, pour une fois, on s'est fait plaisir avec les mères fondatrices de l'Union européenne. Et il y en a tant d'autres à découvrir. On aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler dans de prochaines chroniques autour de l'Europe en direct sur Graffiti. Merci beaucoup, Hélène, et à bientôt.
À bientôt avec Europe Direct Vendée.